Bonjour à chacun, à chacune. Alors, j'ai bien compris que le privilège de ceux qui parlent au micro, c'est de pouvoir parler sans masque, sans visière. Donc, j'use de ce privilège. Je suis bien content, nous sommes bien contents d'être avec vous ce matin. On y a souvent pensé, et nous y sommes dans des circonstances que nous n'aurions pas imaginées. Je crois que c'est la première fois, en tout cas, que mon épouse est assise sur l'estrade. Donc, d'habitude, elle est toujours dans les rangs. Mais comme quoi, eh bien, avec cette pandémie, l'organisation, tout change. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir, surtout que c'est le premier culte que nous pouvons avoir les uns les autres depuis 3 mois. Et on se retrouve ici, c'est extraordinaire de pouvoir célébrer le Seigneur ensemble. De pouvoir tout à nouveau ouvrir la parole, ouvrir nos cœurs, prier, louer le Seigneur, c'est quelque chose, on le faisait chez nous, c'est sûr, mais c'est pas pareil quand même, hein. C'est pas pareil. Alors, c'est pas revenu comme à la normale, mais c'est déjà beaucoup mieux et on bénit le Seigneur vraiment pour cela. Et on aura l'occasion, bien sûr, avec les semaines qui vont arriver, de faire mieux connaissance les uns les autres. Nous avons besoin de vous connaître, et puis nous aussi, vous avez besoin de nous connaître, et puis ça va se faire naturellement. Probablement, quand les choses reviendront un peu plus normales, nous donnerons aussi notre témoignage de conversion pour que vous puissiez aussi mieux nous connaître, savoir d'où nous sommes venus, d'où le Seigneur aussi nous a tirés. Pour l'heure, on va ouvrir la Bible ensemble. Ce matin, le texte que j'ai choisi pour ce matin se situe dans l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 7, Romains chapitre 7, et nous allons lire ensemble les 6 premiers versets, Romains 7. Les 6 premiers versets. On lira aussi d'autres passages au cours de notre partage de ce matin dans d'autres livres de la Bible. Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ce matin, j'aimerais m'arrêter vraiment particulièrement sur ce verset 6 et je vais prendre le temps de le relire. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Servir Dieu dans un esprit nouveau. L'apôtre Paul le dit bien ici, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Lorsque nous faisons un premier culte dans une église, je réfléchis toujours, mais quel message pour le premier culte je vais faire? J'ai choisi ce passage pour plusieurs raisons, par rapport déjà à nous-mêmes, puisque nous arrivons ici dans un lieu que nous ne connaissons pas, dans une église que nous ne connaissons pas encore, on apprend petit à petit à connaître. Et c'est toujours pour nous-mêmes, en tant que pasteurs, un défi parce que nous ne voulons pas reproduire dans une nouvelle église dans laquelle nous sommes les choses que nous avons vécues avant, dans une autre église, dans un autre contexte, parce que les contextes sont différents, parce que les églises sont différentes, parce que les gens sont différents. Bien sûr, la parole de Dieu, elle reste la même, inchangeable, immuable. Le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'Église, dans cette Église ? Servir Dieu dans un esprit nouveau. Non seulement par rapport à nous-mêmes, mais aussi beaucoup de questionnements, je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour mon épouse et moi-même, beaucoup de questionnements par rapport à ce confinement. Et le premier culte, aussi, après ce confinement, dans des situations, une situation bien particulière, ça aurait dû être aujourd'hui notre dernier culte en Tunisie, c'est le premier à Toulouse. Dieu a bouleversé nos agendas. À vous et à moi, certainement, nos agendas ont été bousculés. Beaucoup de questionnements sur ce que Dieu fait, sur la société, dans quelle société nous sommes. Beaucoup de questionnements aussi sur la fin des temps. On est obligé quelque part à se poser des questions. Je me suis beaucoup posé des questions par rapport à la fin des temps, aux événements qui aujourd'hui se passe depuis quelques années, qui ne touche plus seulement un endroit de la planète, mais qui se globalise. Il y a des événements climatiques qui se globalisent aujourd'hui. Cette pandémie aussi se globalise. Elle a touché le monde entier en quelques semaines. Le terrorisme qui a atteint beaucoup de pays, qui se globalise aussi, la persécution des chrétiens aujourd'hui, qui n'a jamais été aussi intense que dans le passé et qui touche de nombreux pays. Il y a quoi vraiment se poser des questions par rapport à la fin des temps? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a dit de ne pas être dans la peur à ce moment-là, mais de nous redresser, de nous lever, de lever nos têtes, car notre délivrance approche. Alléluia. Beaucoup de questionnements non seulement sur la fin des temps, mais beaucoup de questionnements aussi sur l'Église. On est obligé aussi à se poser des questions sur l'Église, car on voit aussi les répercussions que ça a eues sur l'Église, non pas simplement sur une Église quelque part. Parfois, il y a une épreuve qui touche une Église. Mais là, ça s'est globalisé dans le monde entier. Dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des Églises qui ne se sont pas remises de cette histoire. Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il attend de l'Église aussi pour nous-mêmes ici ? Ça doit vous faire encore plus bizarre à vous qu'à moi, parce que moi je vous découvre, mais vous, vous avez connu ce lieu dans d'autres circonstances avant ce confinement, et puis on se retrouve comme ça. On peut servir Dieu et se dire, mais maintenant, qu'est-ce que Dieu attend pour nous aujourd'hui ? Dans quelle mentalité je sers Dieu ? Nous allons revenir à notre contexte de ce texte de la parole de Dieu dans Romains au chapitre 6, Romains chapitre 7, excusez-moi, c'était Romains chapitre 7, verset 6. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ici ? Il parle de la loi, il parle à des hommes qui connaissent la loi, il va prendre un exemple par rapport au mariage. Et puis, il dira que nous ne servons plus selon la lettre qui a vieilli, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Cette loi dans laquelle ils étaient retenus a vieilli. Et nous ne pouvons servir Dieu sous cette loi. C'est peine perdue, on se fatigue pour rien. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, nous le savons. L'apôtre Paul dira un peu plus loin au chapitre 10 de la même épître, au chapitre 10, verset 1er. Frères, chapitre 10, verset 1er, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Paul rend ce témoignage de ceux de sa nation. Il dira, mais je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Oui, ils servent le Seigneur. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. L'apôtre Paul en est lui-même un bel exemple avant sa conversion. On ne peut pas nier qu'avant sa conversion, l'apôtre Paul n'avait pas de zèle pour Dieu. Il avait du zèle pour Dieu. Il pensait servir Dieu même en persécutant l'Église. Il pensait servir Dieu en mettant les chrétiens en prison. Il est écrit qu'il ravageait l'Église et il faisait ça au nom de Dieu. Il pensait servir Dieu. Sous prétexte de le servir en observant scrupuleusement la loi, comme bon pharisien qu'il était, il persécutait l'Église. Mais lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, lorsque le Seigneur a fait de lui une nouvelle créature, tout a changé dans son cœur, il a servi Dieu selon l'Esprit, non plus selon cette loi qui tue, non plus selon cette loi qui a vieilli. Non pas que la loi, elle est mauvaise, l'apôtre Paul le dit plus loin, il dira « la loi n'est pas péché ». Il le dit à la fin, en suivant après le texte que nous avons lu au chapitre 7. Mais c'est ce que produit la loi dans nos cœurs. Il y a bien des personnes aujourd'hui qui se mettent sous un joug pour servir Dieu, mais nous savons que ce n'est pas le joug du Seigneur. Ce n'est pas le joug du Seigneur. Ils s'imposent des choses pensant servir Dieu. Ils s'imposent leur propre code, leur propre loi, mais ce n'est pas ainsi qu'on sert le Seigneur. Servir Dieu dans un esprit nouveau. Lorsque Paul va arriver à Jérusalem quelques années après avoir débuté son ministère, Jacques lui dira, tu vois combien de milliers de Juifs ont cru, et il les rajoute, et tous sont zélés pour la loi. Acte 21, verset 20, pour ceux qui prennent des notes. Et par rapport à ça, Jacques dit, on va essayer de calmer les choses. Parce que certains en voulaient à Paul, même parmi ceux qui avaient cru. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient aussi zélés pour la loi. Et par rapport à cela, certains en voulaient à Paul. Un zèle sans intelligence. Et cette loi peut même faire produire de l'hypocrisie à tel point qu'on retrouve ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que le cœur peut être éloigné de Dieu, tout en ce que la même personne peut honorer Dieu de ses lèvres, son cœur est loin de lui. Ils pouvaient offrir des sacrifices à Dieu, mais avoir leur cœur loin de lui. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur veut que nous le servions. Servir Dieu dans un esprit nouveau. Alléluia. Nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons une nouvelle mentalité pour servir le Seigneur. Et ce changement, il n'est pas figé dans le temps, il est continuel. C'est un processus qui est là. C'est un processus. Nous sommes transformés de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3:18. L'Esprit de Dieu nous transforme de gloire en gloire. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression de renaître de nouveau. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression des fois. On vit des moments avec le Seigneur. Mais c'est normal parce que nous sommes transformés de gloire en gloire. Sans cesse, le Saint-Esprit agit en nous. Et puisque nous sommes transformés de gloire en gloire, notre manière de servir aussi change parce que le Saint-Esprit change notre mentalité petit à petit. Il travaille en nous, il nous fait progresser dans la foi, il nous fait progresser dans le fruit de l'Esprit, dans la maturité spirituelle. Et au fur et à mesure que cette maturité spirituelle va en grandissant, notre service en est aussi impacté, en est changé. Notre manière de servir aussi est changée. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je ne sers plus le Seigneur maintenant comme au début de ma conversion. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur m'a apprises, et on passe tous par là, et c'est normal. Parce que le Saint-Esprit travaille notre cœur, il nous transforme, utilisant sa parole aussi, qui est comme un miroir pour nous montrer où nous en sommes dans la foi. C'est important de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu, pour savoir où nous en sommes. Est-ce que je sers toujours le Seigneur dans cet esprit-là? Est-ce que je sers toujours le Seigneur dans un esprit nouveau? Les Galates, pour ne parler que d'eux, l'apôtre Paul leur dira, au chapitre 3, verset 3, « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair ?» Voilà que les Galates avaient bien servi le Seigneur selon l'esprit, mais ils s'étaient replacés sous le joug d'une loi et ils finissaient par la chair. Puissions-nous toujours veiller sur notre cœur? Toujours veiller sur notre cœur. On pourrait citer encore l'exemple de Marthe, la sœur de Marie. Connaît cet exemple, Marthe, une femme certainement dévouée, zélée, une femme de cœur certainement, elle avait un cœur pour les autres, puisqu'elle servait. C'est bien de servir. C'est bien de servir les autres. Jésus était à la maison avec ses apôtres. Quelle joie, quelle bénédiction! Jésus était aussi ici à la maison. Hein. Amen. Et Jésus venant chez elle, elle s'est mise à l'œuvre, elle a commencé à servir le Seigneur, certainement qu'au départ, elle le faisait avec beaucoup de plaisir. Et puis voilà, Jésus commence à parler, des discours certainement extraordinaires. On aurait aimé, nous aussi, être là, dans cette maison, pour entendre les discours de Jésus. Mais elle ne pouvait pas participer pleinement à ses discours. Elle était un peu partout, à la gazinière, au service, aux assiettes, ceci, celle-là. Elle servait tout ce petit monde qui était là. L'amertume a commencé à venir, l'aigreur a commencé parce qu'elle voyait sa sœur qui ne faisait rien. Et là, bien sûr, elle a commencé à dire à Jésus ce qu'on sait par rapport à sa sœur. Mais j'ai dit non, mais Marie a choisi la bonne part. Il y a un temps pour tout, c'est vrai que nous le puissions l'apprendre, parce que sinon l'amertume peut vite gagner notre cœur et nous ne servons plus selon l'Esprit avec ce fruit de l'Esprit, mais nous allons servir le Seigneur avec de l'amertume, avec des contraintes, avec des choses qui sont dans notre cœur. On ne fait plus les choses pour que le Seigneur en soit glorifié, on ne fait plus les choses pour aider nos frères et sœurs dans la foi, mais on fait les choses par contrainte, par routine, et la routine peut engendrer plein de choses dans notre cœur. Et nous avons besoin, si tel est le cas, de servir le Seigneur avec un esprit qui est renouvelé. Servir Dieu avec un esprit renouvelé. Et peut-être, et je l'espère, pour chacun d'entre nous, pour moi-même en premier, qu'au moins ce confinement ait permis qu'on puisse s'asseoir au pied du Seigneur, prendre le temps pour l'écouter. Prendre le temps pour l'écouter. J'ai cité les Galates, j'ai cité Marthe. Je vais citer deux autres personnages de la parole de Dieu et pas des moindres. Des apôtres du Seigneur, Jacques et Jean. Jacques et Jean, pas des moindres. Mais voyons dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, verset 51. À partir du verset 51, Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, ils allèrent dans un autre bourg. » Jacques et Jean. Quand on parle de Jean, on a ces versets de Jean qui parlent de l'amour. Peut-être Jacques, il était plus incisif, mais Jean quand même. Jean et Jacques avaient besoin d'apprendre certaines choses et de servir le Seigneur autrement. Les Samaritains ne l'ont pas reçu et on connaît les rivalités entre les Samaritains et les Juifs. Jacques et Jean connaissaient ces passages de l'Ancien Testament où ces prophètes de l'Ancien Testament commandaient au feu du ciel de descendre et consumer les ennemis. Et ils voulaient peut-être servir le Seigneur de cette manière-là, mais Jésus leur dira non. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils ont appris là une leçon du Seigneur. C'était dans cet état d'esprit-là que le Seigneur veut qu'ils le servent, non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Et c'est vrai, lorsque quelqu'un nous ennuie, lorsque quelqu'un nous oppresse, des fois il y a la moutarde un peu qui nous monte au nez, hein. Et on pourrait dire, Seigneur, fais-moi justice. C'est pas très loin quand même, hein, entre nous, honnêtement, de Seigneur, tu veux pas que le feu du ciel descende sur eux et les consume. C'est ton affaire, Seigneur. C'est pas à nous la vengeance. C'est pas à nous, ça appartient au Seigneur. Nous, il nous appelle à aimer. Il nous appelle à pardonner. C'est son affaire, le reste. C'est son affaire, le reste. Il nous appelle à le servir pour sauver les âmes. Il nous appelle à le servir pour que les âmes soient encouragées dans la foi. Bien sûr, il y a des personnes qui ont besoin d'être reprises. Il est certain, et ce n'est pas de ça ici que le Seigneur parle. Mais servons dans cet état d'esprit que lui-même, Jésus, le bon berger, avait. Il est venu, lui, le Fils de l'homme, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Servir Dieu dans un esprit renouvelé. Les disciples, au fur et à mesure de leur contact avec le Seigneur, ils ont passé 3 ans, ils ont appris bien des choses. Ils ont même eu une contestation entre une contestation, c'est ce qui est écrit, donc à un moment donné, ça a chauffé entre eux. Hein, pour savoir qui devait être estimé le plus grand, la belle affaire. Ils se sont disputés, ils ont une contestation entre eux pour ça. Ah, c'est Pierre, non, c'est Jacques, non, c'est Jean. Bon. Non. Et là, Jésus va encore leur donner une autre leçon pour qu'ils apprennent à ne plus servir dans cet état d'esprit-là, mais selon l'état d'esprit d'humilité. Non pas pour dominer les autres, mais pour être serviteurs des autres. Que Dieu nous aide. Qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, que le Seigneur nous aide à le servir dans un esprit nouveau et non plus selon des habitudes peut-être qu'on aurait prises malgré nous. Ces habitudes, on les prend parfois sans s'en rendre compte. Et ces habitudes deviennent force de loi, et cette loi va éteindre la vie de l'esprit en nous. Comme il est écrit dans le psaume 100, verset 2, « Servez l'Éternel avec joie. » Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Voilà, voilà que je disais tout à l'heure que la parole de Dieu est comme un miroir. Servir l'Éternel avec joie, qu'est-ce que cela répercute dans mon cœur? Si je ne fais plus les choses avec joie, où j'en suis dans la foi? Où j'en suis dans la foi? Oui, nous voulons garder notre cœur intact avec cette joie de l'Esprit, alléluia, afin de le servir avec joie venir à la maison du Seigneur, avec joie de voir les frères et sœurs, avec joie de servir le Seigneur, avec humilité, en faisant tout pour sa gloire, quoi que nous fassions. L'apôtre Paul dira faire tout pour sa gloire. Que nous mangions, que nous buvions, que nous soyons toujours à la gloire du Seigneur. Quoi que nous fassions. Alléluia. Nous voulons servir dans cet état d'esprit-là. J'aimerais aller avec vous dans un psaume. 51, le psaume 51. Verset 12. Psaume 51, verset 12. C'est David qui écrit ça. Je rappellerai le contexte dans lequel il l'a écrit. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je vous laisse ce psaume 51 qui est remarquable, vous pourrez le lire chez vous. Un psaume de repentance de David. David, c'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, un homme extraordinaire. Il faisait tout pour la gloire du Seigneur, il aimait Dieu. Un homme courageux, audacieux dans la foi. Mais à un moment donné, on connaît la faute de David et c'est à ce C'est ce moment-là qu'il va, après que Nathan le prophète l'ait repris, qu'il va se repentir. David a péché gravement, très gravement. Mais son cœur va être touché par le Seigneur. Il va se repentir profondément. Mais entre le moment où David a commis le péché et celui où il va se repentir, il va se passer un laps de temps assez important. Je dirais même que si on analyse bien la chose, avant même qu'il commette le péché, quelque temps déjà auparavant, il y avait du fléchissement dans le cœur de David. Et à partir de cette période, jusqu'au moment où Nathan le prophète va le trouver, il y a à peu près une année qui s'est passée. Puisque l'enfant qu'il a eu avec cette femme va naître, on sait qu'après il va mourir cet enfant. Donc il y a à peu près une année grosso modo, qui se sont passés. David a gardé ces choses dans son cœur. Et David ne pouvait plus servir Dieu avec cet état d'esprit dans lequel il était auparavant. C'est incompatible. Mais lorsqu'il va se repentir, lorsque le Seigneur va toucher son cœur, il va faire cette prière tout à fait remarquable. Et on voit là que ce n'est pas, j'allais dire, une petite repentance comme ça à la va-vite. Hein. Mais ça a été vraiment profond dans le cœur de David. On aurait pu lire tout le chapitre 51, mais il va dire, et on va rester sur notre sujet de ce matin, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Servir Dieu dans un esprit nouveau. Il se passe des choses dans le monde. Il se passe des choses dans nos cœurs, dans nos familles, Il se passe des choses dans l'Église qui doivent nous amener à réfléchir par rapport à nos voies. Peut-être il y a parfois des fléchissements dans notre vie à cause de tel ou tel événement, mais ne nous arrêtons pas, allons de l'avant. Allons de l'avant. En disant, Seigneur, mais renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peut-être nous nous sommes arrêtés, peut-être on ne sert plus le Seigneur dans cet état d'esprit qui caractérise le disciple du Seigneur. Mais tout comme David, nous voulons dire et faire cette prière, renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que je te serve dans un esprit nouveau, Seigneur, avec la joie, avec l'humilité, en faisant tout pour ta gloire, Seigneur Jésus. Que ton nom soit ainsi glorifié dans l'Église. Le passé, il est ce qu'il est. Le passé, il est ce qu'il est. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut se repentir. Le passé, il est ce qu'il est, mais le Seigneur tient les temps et les circonstances dans ses mains. Le passé, il est ce qu'il est, mais avec ce passé, le Seigneur le permet parfois pour nous faire rebondir. Il y a eu le confinement. Je le sais aussi, vous avez souffert dans cette église un peu avant le confinement. Mais il faut aller de l'avant. Alléluia. En servant le Seigneur avec un esprit renouvelé. Servir Dieu dans un esprit nouveau. Alléluia. Que le Seigneur nous aide les uns et les autres. J'en ai besoin pour moi-même, constamment, de me repositionner devant le Seigneur, d'examiner mon cœur pour savoir où j'en suis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. Les mauvaises voies ne sont pas les voies d'adultère comme David. Les mauvaises voies, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement ça, les mauvaises voies. C'est à chaque fois que nous décrochons du Seigneur, de notre attachement, de notre fidélité, du manque de foi, du manque de zèle, d'humilité. Seigneur, merci. Alléluia. Aide-nous à te servir dans un esprit nouveau, constamment, constamment renouvelé. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. On va prier ensemble. Seigneur, quel bonheur. Seigneur, quel bonheur pour nous de te célébrer, Seigneur. Quelle joie tu mets dans notre cœur de pouvoir enfin nous retrouver dans ta présence. Nous savons qu'à tes yeux, tu attaches un grand prix à la communion fraternelle. Mais si le diable veut détruire cette communion fraternelle, il a perdu d'avance parce que tu tiens l'Église dans tes mains. Tu tiens l'Église dans tes mains, Seigneur. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jusqu'au jour où tu reviendras chercher ton Église, tu la tiens dans tes mains. Tu la tiens dans tes mains, Seigneur. En attendant ce jour, Seigneur, nous voulons toujours nous tenir à tes pieds, constamment. Renouvelle-nous, nous en avons besoin les uns et les autres. Constamment, c'est toi qui nous transformes de gloire en gloire, Seigneur, par ton esprit. C'est encore une grâce de ta part. C'est encore une grâce de ta part. Béni sois-tu, béni chaque frère, chaque sœur de cette église, les enfants de cette église, les adolescents, les jeunes, nos aînés dans la foi, Seigneur. Peut-être nos aînés qui, tellement âgés qu'ils ne peuvent pas se joindre à nous, tu les connais dans leur solitude, tu les bénis là où ils se trouvent. Mais tu tiens ton Église entre tes mains, Seigneur. Oui, renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur, afin que nous te servions toujours avec joie, avec entrain, avec zèle. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.